Très bon réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Reconfinement total en Angleterre, a annoncé hier Boris Johnson. Le pays enregistre des chiffres alarmants dus notamment à la variante hyper contagieuse du Covid-19. Nous irons à Londres avec Richard Place. Nous irons aussi en Inde qui autorise un second vaccin sans même avoir terminé les essais cliniques.
Dans ce journal également, cette nouvelle affaire d'inceste et de pédophilie qui éclabousse le monde politique. Le politologue Olivier Duhamel est accusé par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir agressé sexuellement le frère jumeau de celle-ci. Elle le révèle dans un récit intitulé « Familia Grande ».
Nous nous pencherons sur la réforme des pensions alimentaires généralisée depuis le 1er janvier, une réforme inaboutie selon des associations de mères célibataires.
Au Venezuela, le nouveau parlement se met en place sans le premier opposant au pouvoir, Juan Guaido, pourtant soutenu par la communauté internationale.
Enfin, le billet politique de Frédéric Saïs à Presse Journal sur la campagne qui commence déjà de Jean-Luc Mélenchon. Le lockdown à nouveau, en français le confinement total, est à nouveau instauré en Angleterre. Décision hier de Boris Johnson face aux chiffres plus qu'inquiétants de l'épidémie de Covid-19, en particulier à cause de sa variante très contagieuse. Les débuts tambour battant de la vaccination à grande échelle n'y auront rien fait. Ce matin, le Royaume-Uni est reconfiné totalement, et ce jusqu'à la mi-février. À Londres, Richard Place.
Fermeture des écoles, télétravail partout où c'est possible. Seuls les magasins essentiels restent ouverts. Les déplacements limités au maximum pour de l'exercice physique, des déplacements professionnels indispensables, des rendez-vous médicaux ou l'achat de biens de première nécessité. Boris Johnson a bien lu les derniers chiffres transmis par ses conseillers médicaux. Il les égrène, dépité.
Au moment où je vous parle, nos hôpitaux subissent une pression à cause du Covid, encore jamais atteinte depuis le début de la pandémie. Rien qu'en Angleterre, le nombre de patients Covid hospitalisés a augmenté de près d'un tiers dans la dernière semaine. Nous sommes à près de 27 000. Ce nombre est 40% supérieur au premier pic d'avril. Le 29 décembre, plus de 80 000 personnes ont été testées positives dans tout le Royaume-Uni. Un nouveau record. Le nombre de morts a augmenté de 20% la semaine dernière et va s'accroître malheureusement encore. Mes pensées accompagnent tous ceux qui ont perdu des êtres chers.
Boris Johnson tente aussi de rassurer. La campagne de vaccination a commencé il y a un mois ici avec le vaccin Pfizer. Et aujourd'hui, les premières doses AstraZeneca ont été distribuées. Plus d'un million de personnes ont au moins reçu une dose. C'est l'espoir auquel il se raccroche pour dessiner un futur plus joyeux.
Un reconfinement britannique qui intervient trop tard, selon l'historien et universitaire britannique Daniel Lee. Cela étant, de nombreux pays se débattent également avec une deuxième et parfois troisième vague meurtrière, et ce malgré les autorisations données un peu partout de vacciner à grande échelle. En Inde, justement, les autorités ont approuvé ce week-end l'utilisation de deux premiers sérums contre le Covid-19, celui d'AstraZeneca et un autre indien développé par le laboratoire Bharat Biotech. Une autorisation en urgence très critiquée par les scientifiques indiens car les résultats des essais cliniques n'ont pas été publiés et surtout ces essais du vaccin indien ne sont même pas terminés. La correspondance en Inde de Sébastien Farcy.
En Occident, les autorités américaines et européennes ont publié les résultats des essais cliniques des vaccins qu'elles utilisent pour rassurer leur population. Rien de tel en Inde où l'opacité règne. Le vaccin d'AstraZeneca, déjà autorisé au Royaume-Uni, a été approuvé par New Delhi alors qu'on ne connaît pas les résultats spécifiques sur la population indienne. Plus grave, l'entreprise indienne Bharat Biotech a, elle, reçu le feu vert des autorités alors qu'elle n'a même pas terminé ses essais cliniques de phase 3 qui sont censés déterminer l'efficacité de son vaccin. Pour Amar Jessani, rédacteur en chef du journal d'éthique médicale, c'est une aberration.
Les essais cliniques de ce vaccin doivent se terminer fin février. Et après, ils sont censés suivre les patients pendant 2 mois pour savoir s'il est vraiment efficace. Mais les autorités l'ont approuvé dès à présent sans indiquer si elles avaient les résultats de son efficacité. Donc, il semble que l'autorisation a été donnée à Bharat Biotech seulement car c'est un vaccin indien. Et donc, pour des raisons politiques et non scientifiques. Et cela peut ressembler à ce qu'ont fait les Russes et les Chinois.
Les résultats préliminaires sur 22 500 patients montrent au moins que ce vaccin ne serait pas dangereux. En attendant la fin des essais cliniques de Bharat Biotech, le gouvernement devrait utiliser en priorité l'autre vaccin approuvé, celui d'AstraZeneca, produit en Inde par le Serum Institute of India.
Et puis en France, les critiques de tous bords s'accumulaient hier sur la stratégie gouvernementale à propos de l'épidémie, notamment la campagne de vaccination dont les débuts sont chaotiques. Cela va monter en puissance rapidement, a promis hier, puis à nouveau ce matin, le ministre de la Santé. Autre point qui cristallise les critiques, le tirage au sort de 35 citoyens qui seront chargés d'évaluer la stratégie vaccinale. Selon France Info, à l'issue de la réunion restreinte qui s'est déroulée à l'Élysée hier, Jean Castex a dû faire face par visioconférence à un long tunnel de critiques de la part des présidents de groupes parlementaires et des chefs de parti. Enfin, concernant un possible allègement des restrictions liées à l'épidémie, le futur proche ne s'annonce guère positif. Il semble que la date du 20 janvier pour la réouverture des bars et restaurants soit déjà remise en cause. Quant au télétravail, il pourrait rester de rigueur. Et pourtant, le gouvernement s'inquiète des conséquences psychiques de l'isolement professionnel. Hier, la ministre du Travail avait rendez-vous avec les partenaires sociaux. Elle leur a présenté une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise qui devrait favoriser le retour un jour par semaine des salariés en télétravail qui le souhaitent dans leur entreprise. Catherine Pétillon.
Jusqu'à présent, la recommandation ministérielle, c'était télétravail dès que possible. Selon les chiffres de la DARES, en novembre, un quart des salariés ont été au moins un jour en télétravail, une proportion qui rejoint les chiffres du printemps et du premier confinement. Mais cette fois, il n'est pas vécu de la même manière. Les indicateurs de santé psychique montrent que globalement, la période est plus mal supportée. Et dans ce contexte, le télétravail est inégalement accepté par les salariés, soit en raison de difficultés matérielles ou familiales, soit parce qu'ils souhaitent pouvoir retourner sur le site de leur entreprise, alors vu comme un lieu de vie sociale possible. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a proposé hier aux partenaires sociaux que pour les salariés totalement en télétravail, un retour sur le site soit possible un jour par semaine. Une manière de faire évoluer l'équilibre entre le risque sanitaire lié au Covid et les risques psychosociaux, parfois induits par la solitude et le travail à distance. Même si dans le détail, le télétravail est très inégalement développé. 44% des gens qui télétravaillent restent chez eux toute la semaine. C'est donc 12% de l'ensemble des salariés qui sont en télétravail complet. Et c'est pour eux que le nouveau protocole pourrait changer des choses. 40% des salariés télétravaillent entre 2 et 4 jours par semaine. Cela dépend aussi des activités. C'est dans les secteurs de l'information, communication, 80% des salariés, et les activités financières et d'assurance, 66%, que c'est le plus développé. Dans l'agroalimentaire ou le secteur social, cela concerne moins de 10% des salariés. L'autre grande variable, c'est la taille des entreprises. Dans les structures de 10 à 19 salariés, 16% des travailleurs ont été au moins un jour en télétravail. C'est 34% dans les entreprises de plus de 500 salariés.
J'avais 14 ans, je savais et je n'ai rien dit. Ce sont les mots de la juriste Camille Kouchner qui, dans son livre La Familia Grande, révèle les agressions sexuelles subies par son frère jumeau. Des agressions dont elle accuse leur beau-père, le politologue et figure de la gauche Olivier Duhamel. Des extraits de ce livre sont parus hier dans Le Monde et l'Obs. Olivier Duhamel annonçait hier dans un tweet mettre fin à l'ensemble de ses fonctions, notamment à la tête de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, pour cause, selon ses mots, d'attaque personnelle. Un inceste dénoncé aujourd'hui seulement. Dans son livre, Camille Kouchner précise que beaucoup de personnes de l'entourage de la famille étaient au courant. Les précisions de Florence Turm.
C'est un livre écrit dans le plus grand secret, à l'image de celui qui s'était imposé dans toute la famille, écrit Camille Kouchner. Son frère jumeau, qu'elle baptise d'un prénom d'emprunt, Victor, avait 14 ans quand il lui confie avoir été agressé sexuellement par son beau-père. Elle ne le nomme pas dans l'ouvrage, mais il est bien évidemment aussitôt identifiable. Camille Kouchner estime que les agissements qu'elle dénonce aujourd'hui, 35 ans plus tard, ont duré 2 ans. Au fil du temps, affirme-t-elle, plusieurs membres de la famille ont été mis au courant, leur mère, Evelyne Pizier, professeure de droit décédée en 2017, leur frère aîné Julien, leur père, l'ancien ministre Bernard Kouchner, tous deux estiment aujourd'hui que Camille Kouchner a été très courageuse, tandis qu'Olivier Duhamel a indiqué « je n'ai rien à dire là-dessus ». Jamais Victor n'a voulu déposer plainte, ce n'est pas lui qui a demandé à sa sœur de livrer ce texte, mais il l'a relu, indique Le Monde, confirmé que ce qu'elle a écrit est exact. Les faits dénoncés, qu'il s'agisse d'agression sexuelle ou de viol, sont désormais prescrit. En tant qu'avocate et maître de conférences en droit privé, Camille Kouchner ne pouvait l'ignorer. Elle explique qu'elle a voulu se défaire du silence. Elle parle aussi de sidération et d'emprise, les mêmes mots utilisés par Vanessa Springora dans son livre réquisitoire contre l'écrivain Gabriel Matzneff, paru il y a tout juste un an.
8h09, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin sur France Culture. C'était l'une des réformes sociales issues du grand débat national, lui-même issu de la mobilisation des Gilets jaunes. La réforme des pensions alimentaires... plus précisément des pensions alimentaires non versées.
Oui, le président de la République se déplace sur ce sujet cet après-midi à la caisse d'allocation familiale de Tours, à la rencontre de familles monoparentales ayant bénéficié de cette réforme. Elle permet le versement de la pension alimentaire par l'État en cas de défaillance de l'ex-conjoint. Après une expérimentation de quelques mois, elle a été généralisée au 1er janvier. On rappelle qu'en France, une famille sur quatre est monoparentale. 80% sont des femmes. Cécile de Carvaz-Doué.
En France, 30 à 40% des familles monoparentales ne touchent pas la pension alimentaire qu'elles devraient recevoir pour l'éducation des enfants. Dans la très grande majorité des cas, ce sont des femmes seules qui s'appauvrissent, puisqu'un tiers d'entre elles vit avec les enfants sous le seuil de pauvreté. Il existe pourtant depuis 2017 une agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires. Mais dans les faits, elle n'est saisie qu'une fois sur cinq par les victimes et n'agit qu'au coup par coup. Or, l'idée de cette nouvelle réforme est de garantir chaque mois le versement de la pension alimentaire, et ce jusqu'aux 18 ans de l'enfant, sans avoir à en faire la demande à chaque fois qu'il y a un impayé. Dorénavant donc, dès la séparation, l'un des deux parents ou le tribunal pourra demander directement à la caisse d'allocation familiale de récupérer l'argent de la pension alimentaire pour la reverser au parent qui a la garde des enfants. S'il y a un impayé ou un retard de paiement, la CAF ira directement chercher la pension alimentaire sur le salaire du créditeur pour le reverser à l'autre parent. Et dans l'intervalle, elle versera aussi l'allocation de soutien familial, c'est-à-dire 116 euros par mois et par enfant. Grâce à ce nouveau système, depuis octobre, 10 000 familles ont vu leur pension alimentaire pérennisée. Cette année, l'objectif du gouvernement est de régulariser la situation de 100 000 personnes, soit moins d'un tiers des familles aujourd'hui privées de pension alimentaire.
Mais pour certaines associations, cette réforme est insuffisante car elle ne concerne que l'un des aspects de la monoparentalité. Catherine Ganguet est secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. Écoutez-la.
La pension alimentaire, c'est un élément important, mais il n'est pas suffisant. Nous pensons que la vraie question pour pouvoir résoudre les problèmes de la monoparentalité sont des questions multiples. Donc il faut prendre le temps de pouvoir réfléchir à un accompagnement global des familles monoparentales d'un point de vue du logement, d'un point de vue de la mobilité, d'un point de vue de l'accès à l'emploi, d'un point de vue de la santé des familles monoparentales et des enfants. Donc c'est un problème global. Nous avons aussi des familles, des femmes, des hommes qui ne sont pas en mesure de respecter ce devoir, et le recouvrement de la pension alimentaire par le moyen de la CAF peut même générer des problèmes supplémentaires au sein de la famille. Parfois, on va pouvoir payer une pension alimentaire mais ne pas voir ses enfants parce qu'il n'y a pas un accompagnement global, parce qu'on pense en logique économique. On ne pense pas, finalement, l'intérêt supérieur de l'enfant ne se réduit pas à cette logique économique. Il y a quelque chose de plus à réfléchir, il y a quelque chose de plus à prendre en considération, réfléchir à des conditions de vie optimales pour un enfant avec un seul parent. Donc, il faut que la société s'adapte aussi aux nouvelles façons de faire famille.
Des propos recueillis par Cécile de Carvaz-Doué. L'actualité à l'étranger, c'est cette nouvelle qui va certainement planer sur le rassemblement des émirs du Golfe. Aujourd'hui, l'Iran, leur ennemi notoire, annonce ce matin qu'il produit de l'uranium enrichi à 20%, annonce de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, et annonce qui va à l'encontre des engagements de l'Iran pris devant la communauté internationale en 2015, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne. Au Venezuela, le nouveau Parlement prend ses fonctions après les élections de décembre marquées par une abstention record et le rejet des résultats par une majeure partie de la communauté internationale. Malgré les critiques, c'est bien le parti présidentiel de Nicolas Maduro qui va reprendre les rênes à l'Assemblée nationale, dirigée jusque-là par l'opposant Juan Guaido, qui perd son siège de député et son immunité parlementaire. Même si pour le président vénézuélien, c'est une victoire à la Pyrrhus, le champ d'action de son opposant sera considérablement réduit. C'est en tout cas l'analyse de Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université de Paris 8.
Juan Guaido se retrouve dans une impasse stratégique parce que ce qu'il a proposé depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire contester la légitimité de Nicolas Maduro et de s'appuyer sur la communauté internationale pour cela, s'avère une impasse. C'est-à-dire que son pari, c'était de revendiquer la légitimité étatique à l'international, d'avoir le soutien de la communauté internationale. Mais ce soutien de la communauté internationale ne lui a pas permis de changer le cours des événements au sein du Venezuela, de récupérer le contrôle de l'armée, ce qui était son souhait, ce qui était ce à quoi il appelait depuis maintenant 2 ans. Quel rôle il peut jouer? Il peut toujours être dans ce ministère de la parole qui dénonce les atteintes aux droits de l'homme que peut commettre Nicolas Maduro, dénoncer le gouvernement de Nicolas Maduro comme une dictature, ce qu'il fait depuis maintenant 2 ans. Après, d'un point de vue d'efficacité, peut-être ses principaux soutiens, à savoir les États-Unis et l'Union européenne, qui pourrait recadrer son rôle. Il y a une transition en ce moment aux États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden qui pourrait redéfinir la stratégie des États-Unis à l'égard du Venezuela. Juan Guaido pourrait jouer un rôle de porte-parole de cette opposition. Mais cette optique de négociation, c'est pas sur quoi il a été engagé. Et c'est pas du tout son positionnement au sein de l'opposition vénézuélienne. D'autres leaders comme Enrique Capriles correspondent beaucoup mieux à ce positionnement de négociation. Reste à voir si les alliés internationaux de l'opposition sont prêts à influer vers cette ligne-là.
On termine avec un mot du temps de ce mardi. Humide, froid et couvert. Quelques flocons ici et là. Les températures, les maximales ne dépasseront pas 0 à 2 degrés dans le nord-est, 2 à 5 degrés ailleurs, jusqu'à 12 en Méditerranée.